C'est la dernière tranche de l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion avec de vrais morceaux de Finistère dedans. Et on va terminer avec le collectif Transition Citoyenne en Pays de Brest, avec qui on a noué un partenariat pour vous faire découvrir ce que pourrait être le monde d'après sur notre territoire. Pour trouver ce monde, eh bien, il faut chercher. C'est ce que fait Bastien Moisan, qui est éleveur à Daoulas. Il est bien plus qu'un éleveur. On va l'écouter chaque lundi en septembre pour découvrir ce qu'il fait. Voici le premier épisode qui nous fait donc visiter son exploitation et sa philosophie.
22 hectares, bah, ça fait 220 000 mètres carrés.
Ouais, mais c'est grand par rapport
C'est grand, ça, tout est relatif, mais...
Par rapport aux autres exploitations
Non, c'est petit. Par rapport aux autres exploitations d'élevage, quoi, c'est petit. Oui.
Et en plus, tu fais de la polyculture.
Ouais, du coup, je fais de la polyculture parce que ce qui m'intéresse, c'est comment on faisait avant, quoi. Comment on faisait avant, mais comment on fait maintenant. Et du coup...
Alors, vas-y, voilà. Présente-nous tous tes élevages.
Alors, j'ai des vaches canadiennes et bretonnes pinoires. Après, j'ai des cochons, des porcs blancs de l'Ouest. Et puis, je fais des céréales pour faire de la farine pour faire du pain, mais aussi des céréales pour faire de la multiplication variétale de variétés anciennes. Et bien sûr, pour nourrir mes cochons. Donc, tous les issues de céréales, tous les petits grains, tout ça, ça va aux cochons.
Tu vises quand même pas l'autonomie. Enfin, les vaches, par exemple, elles sont nourries comment ?
Les vaches, elles sont nourries à l'herbe et au foin. Hein, du coup, un peu de betterave. Quand je l'ai réussi, et puis le but, c'est pas forcément de faire une ferme autonome, mais en tout cas de tendre vers là, et du coup d'avoir peu de frais aussi, et puis de charges, d'achat, quoi.
Comment s'est fait le choix des races des animaux ?
J'ai toujours essayé de faire une recherche, du coup, sur la génétique, je suis reparti sur ce qu'on appelle des land races, c'est-à-dire des races, les races anciennes, quoi, pour essayer de resélectionner dans ces races les caractères qui nous plaisent, quoi, aussi bien dans les céréales que dans les bovins ou dans les porcins. Mais c'est plus long chez les animaux.
La pinoire, on la connaît, on va dire. Et la canadienne, en revanche, c'est quoi ses caractéristiques ?
Ah oui, alors la canadienne, c'est la pinoire du Canada. Bon, il n'y avait pas de vaches en Amérique, en fait, avant la colonisation. Et donc, les colons ont emmené des vaches avec eux dans les bateaux qui venaient du nord de la France et du nord de la Bretagne, là, qui a disparu. Elle est intéressante parce que, du coup, elle est restée en consanguinité pendant plus de 200 ans au Canada et qu'elle est intéressante d'un point de vue laitier. C'est une vache laitière, quoi. Et après, avec le programme de la vache folle, ils ont rapatrié un troupeau par avion pour sauvegarde, quoi.
Donc la production des vaches, c'est du lait, hein, c'est ça, c'est pas pour la viande.
Alors les deux, quoi. Mais après, moi, au départ, je suis en train d'étayer petit à petit un atelier de transformation. J'y suis presque. Et donc, comme c'est une installation progressive, sans trop d'argent ni moyens financiers, du coup, j'y vais petit à petit, quoi.
Alors, donc, du lait pour l'instant, de la viande de porc, il y a des poules, mais non, c'est pour toi.
Ouais, les poules, c'est pour moi.
Et donc, la polyculture, l'élevage, c'est toute une philosophie quand même, polyélevage, polyculture. Pourquoi cet intérêt-là ?
Pour savoir comment ça marche, quoi, comment on fait à manger. Moi, au départ, je viens de la restauration, je travaillais dans les restaurants. Et donc, c'est pour savoir comment on fait à manger, qu'est-ce que mangent les vaches, et comment on fait du pain, tout ça, quoi, donc... Petit à petit, on se réapproprie aussi les moyens de production et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment est-ce qu'on peut refaire le monde aussi, parce que les choses sont allées un peu vite après les années 60. Là, il y a eu des gains de productivité, tout ça avec l'agronomie, enfin tout s'est développé très vite. Et donc on a mis vite de côté les savoirs des anciens et puis la génétique. D'après-guerre, pour tout de suite se lancer dans la grosse production. Et donc l'idée, c'est pas de refaire comme avant, ou de revenir à la bougie, c'est de revoir la génétique d'autrefois, et de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à des productions d'aujourd'hui, et puis à la valorisation alimentaire, à la gastronomie.
Là, ça fait 10 ans, c'est ça, à peu près ?
Ouais, moi, je suis là depuis 2004.
Donc, quel recul, justement ? Quelles sont les leçons de l'expérience ?
Après, moi, je fais de la pêche en même temps. Du coup, je suis pêcheur à pied professionnel. C'est ça qui m'a permis aussi de détailler ma ferme petit à petit, de ne pas me lancer dans une grosse ferme. Et du coup, j'ai pu, comme ça, bon an, mal an, étayer ma ferme année après année.
Quelles sont les expérimentations qui t'ont le plus marqué, enfin les résultats qui t'ont le plus marqué, en bien ou en mal d'ailleurs?
Moi j'ai surtout travaillé sur les céréales avec une association qui s'appelle Triptolème, là, qui travaille au niveau régional, Grand Ouest. On travaille avec les paysans, les meuniers, les boulangers sur des variétés adaptées du coup à l'agriculture biologique et puis à des nouvelles techniques de boulangerie, plus tournées vers le pain au levain, les fermentations longues et du pain avec beaucoup d'arômes et tout ça. Et donc on a travaillé plus c'est ça sur de la multiplication variétale avec l'INRA et puis de l'adaptation à la panification.
Il y a combien de variétés de blé à peu près?
Nous on a travaillé sur un programme, il y avait un chercheur qui travaillait sur le piétin inverse dans les années 60 qui avait sauvé 420 blés dans le pays de Redon. Donc on a ressorti ces blés des frigos de l'INRA qui avaient été conservés du coup à Clermont-Ferrand. Donc on les a ressortis, on a regardé quelles variétés pouvaient correspondre, s'adapter déjà agronomiquement, puis après en meunerie, puis ensuite en boulangerie. Et donc on a essayé de retravailler ces variétés.
Combien de paysans étaient impliqués dans l'expérience?
Dans ce programme Pays Blé, là, on était une vingtaine, je crois, sur la Bretagne. Ouais.
Et ça suffisait pour 400 variétés?
Moi, j'en faisais 70 par an. Du coup, on faisait des micro-parcelles, ainsi de suite, quoi. Mais on sélectionnait vite. Sur les 70 variétés, on n'en gardait que 10. Après, j'en ai multiplié qu'une quarantaine sur les 400. Et puis voilà. Mais après, ça a manqué aussi d'énergie et d'argent pour pouvoir étayer les recherches, puis que les paysans soient rémunérés, parce qu'au début, on était surtout bénévoles. Et donc, les paysans, ils ont peu de temps, surtout dans les périodes estivales. Et donc, c'était pas évident d'être là pour les moissons, d'aller battre variété après variété, une à une, tout ça.
Donc, c'est pas fini, en fait, cette expérience sur les blés anciens?
Enfin, ce programme de recherche qui était financé, si, il est terminé. Mais après, on a fait un autre programme sur le sarrasin. On a fait plusieurs programmes comme ça. Le dernier, c'était sur... Il s'appelle Céréales mineures. Et du coup, c'est sur le millet, le sorgho et tout ça. C'est avec la FRAB.
Qu'est-ce que c'est, la FRAB?
La Fédération régionale d'agriculture biologique. Et l'INRA, donc, en partenariat avec Triptolème. Et donc, on a ressorti du millet. Des plantes un peu plus originales comme ça qu'on avait...
Et ça vraiment, quand même, ça aboutit sur des résultats, des sélections d'espèces quand même. Enfin, ça n'aboutit pas sur rien, ce genre de recherche.
Non, mais c'est très long, quoi. Du coup, quand on doit aller au bout des choses, jusqu'à l'assiette, il faut plusieurs années. On part souvent d'une cuillère à café qu'on récupère dans un conservatoire de semences. Et ensuite, on multiplie. Donc là, pour le blé, mettons, il faut 5 ans minimum, 7 ans en moyenne, pour arriver à avoir une variété en grand champ, quoi. Qu'on peut ensuite moudre. Puis faire du pain, donc c'est long.
Et est-ce qu'on peut dire qu'ici c'est quand même une ferme expérimentale encore, maintenant?
Ouais, moi je pense, du coup c'est une ferme expérimentale, mais bon, je pense qu'il y a autant de fermes qu'il y a de paysans. Chaque ferme doit avoir une partie, il y a toujours des expériences qui se font naturellement dans les fermes. Après, c'est pas une ferme expérimentale professionnelle, puisque elle est très peu rémunérée pour ça. Je dois avoir 500 euros peut-être par an pour faire du travail de recherche. Mais toutes les fermes sont potentiellement des lieux de recherche, évidemment.
Potentiellement, oui. Il faut juste que le paysan ait envie. Et alors sur le pain, où est-ce qu'elle va, la farine qui est produite ici? Qui est-ce qui la travaille? Qu'est-ce que ça donne?
La farine, elle va essentiellement au magasin de producteurs là, de Guasven. Du coup, je fais beaucoup moins de farine qu'avant, parce que comme je m'étais lancé sur du blé, mais le blé, c'est dur à produire. Il faut des terres très exigeantes en bio, il faut des terres plutôt mûres. C'est exigeant comme céréales. Et donc, j'ai réduit vraiment la toilure en hectares de blé, puisque n'ayant que 22 hectares, il faut que j'ai mes rotations à respecter. On peut mettre du blé une fois tous les 5 ans maximum. Donc, je peux mettre peu d'hectares de blé. Donc, j'ai mis beaucoup d'avoine, de févrole, d'orge cette année.
Donc là, c'est pour nourrir les animaux? C'est pour quoi?
Ouais, et pour la semence, ouais.
Et quoi d'autre encore, ouais, comme production végétale éventuelle?
Les autres années, pas forcément. Des pommes de terre, des betteraves.
Mais c'est pas pour vendre, ça?
C'est pour les animaux, ouais. Et puis ici, les pommes de terre, c'est pour vendre, quoi, ouais.
Et les porcs blancs, ils vont où?
Les porcs blancs, du coup, ils vont à l'abattoir du fou, là, tant qu'il y en a encore un, là. Et puis, après, ils vont chez le boucher et puis moi je récupère en caissette pour mes clients particuliers.
C'est en vente directe, pareil, c'est à Goisven. Il n'y a pas des restaurateurs qui sont impliqués dans la ferme, dans les produits de la...
Si, des fois, le ruffet, ils me prennent un cochon. Il y a des restaurateurs qui jouent le jeu un peu, ouais.
Parce que parmi les soutiens que tu as eus, il y a eu le mouvement Slow Food, je crois. C'est quoi ? C'était des restaurateurs avec qui tu avais pu travailler ?
Ouais, y a une bonne dynamique avec les restaurateurs sur la gastronomie. Ils sont intéressés. Après, c'est dur pour eux souvent de transformer un cochon entier. Il y a le mouvement Soul Food qui est toujours un peu balbutiant en France, qui n'a pas encore vraiment percé, mais qui va finir par fonctionner, puisqu'il y a, vraiment besoin qu'on remette en valeur la gastronomie bretonne. Et on espérait plutôt ouvrir une école de gastronomie, mais en fait, ça n'a pas l'air trop possible encore cette année, donc on attend. Là.
Elle serait où ? Dans le Finistère, une école de gastronomie ?
Elle devait être dans le Finistère, mais apparemment, on avait des bâtiments avec le conseil régional qui finalement ne sont plus disponibles, donc on espère que ça va changer et que le conseil régional va s'actionner pour nous trouver un espace de possible, puisque s'il n'y a pas d'espace de possible, ça veut dire que finalement, on n'a plus rien à faire en Bretagne, donc...
C'est une école de gastronomie, ça ne serait pas une école de cuisine. C'est quoi la différence ?
Alors la différence, je ne sais pas s'il y a une différence, c'est qu'on n'est pas une école hôtelière au sens de la formation hôtelière classique. C'est plutôt une école complémentaire qui est à cheval entre du coup, l'agriculture, la gastronomie, et puis du coup la recherche, l'alimentation, et puis aussi là, bien sûr tout ce qui vient avec, c'est-à-dire la vente, toute la valeur ajoutée qu'on peut faire autour de ce fait, quoi.
Lundi prochain dans l'EM, la suite de cette exploration de la ferme de Bastien Moison à Daoulas.